Qu'en est-il du royaume ? Qu'en est-il du royaume ? Ce matin, nous allons nous intéresser à la deuxième série sur les paraboles du royaume. Et c'est ce qu'on a intitulé « Les secrets, le secret du royaume ». Moi, quand je vais au cinéma, je cherche avant tout un film où on va profiter de la qualité de l'image, où on va profiter de la qualité du son, un truc qui explose avec plein d'images, plein d'actions, et après, je regarde le scénario. Je sais pas comment vous faites quand vous allez choisir votre film, mais je veux quelque chose qui est différent de chez moi, quelque chose qui claque. Quand je vais dans un lieu, un festival, quand je vais à l'église, je pourrais envie d'avoir quelque chose aussi qui claque. Une louange extraordinaire avec des musiciens grandioses qui font tourner les baguettes quand ils font de la batterie. Des activités qui me donnent plein d'actions, qui me donnent envie de bouger, qui me donnent envie de faire plein de choses, qui révèlent quelques sensations. Je peux venir à l'église juste pour parce qu'il y a une Bible et ça me fait plaisir de pouvoir lire la Bible, l'écouter. Et ce que Jésus nous propose ce matin, c'est de nous montrer que le royaume n'est pas toujours ce qu'on croit. N'est pas forcément un royaume qui claque, comme on pourrait l'entendre. Nous allons voir trois paraboles. Avant de continuer, je vais rappeler en fait, la définition d'une parabole. C'est doit être la première question. Qu'est-ce qu'une parabole ? La semaine dernière, on l'a évoqué, mais je pense que c'est intéressant de le répéter. On le retrouve souvent dans la Bible, alors si on loupe un peu ça, on va avoir du mal des fois à tout comprendre. Jésus, particulièrement dans les évangiles, parce qu'on sait de lui qu'on parle, parle en parabole. Il fait des comparaisons, il veut expliquer une situation, une morale, une idée, un concept, et il fait une comparaison avec une situation de vie, une situation de la vie courante. Son idée est de faire comprendre un message. Ce n'est pas de raconter des histoires, ce n'est pas une illustration, c'est de faire comprendre un message en comparant avec une situation que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Les implications pour nous, c'est qu'on n'est pas toujours dans les mêmes situations. Donc on doit même comprendre l'image. Donc, c'est un peu le problème. Mais si on doit commencer à expliquer l'illustration, ça peut des fois être problématique. Mais en tout cas, pour les auditeurs de l'époque, c'était clair. Le message était clair, les comparaisons étaient simples. Et souvent dans les paraboles, on ne doit pas tout analyser, on ne doit pas tout comparer, mais seulement l'idée principale, si on arrive avec des interprétations un peu bizarres. La semaine dernière, je rappelle, vous vous souvenez, on avait vu la parabole du semeur. Cette parabole nous rappelait que le royaume relève d'une décision du cœur, un choix de recevoir ou non message. Ce matin, nous allons nous intéresser à la croissance de ce royaume, et comme je disais, qui est différente de ce qu'on pourrait penser, imaginer, qui ne rentre pas forcément dans nos catégories mentales. Notre texte qui va nous conduire, c'est Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 43. Pour faciliter, je vous affiche le texte. Je commence la lecture. Il, c'est Jésus, leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors, les serviteurs lui demandèrent, « Veux-tu que nous arrachions cette mauvaise herbe ?»« Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Jésus leur raconta une autre parabole. Il y en a trois. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Il leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. Et à la fin, toute la pâte est levée. Jésus enseigna toutes ces choses aux foules et en employant des paraboles. Il ne leur parlait pas sans paraboles et ainsi se réalisait la parole du prophète. Je leur parlerai à l'aide de paraboles. Je leur annoncerai des secrets cachés depuis la création du monde. Il faut entendre caché dans l'idée de pas encore expliqué, révélé. Alors, Jésus laissa la foule et il rentra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il a répondu « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de ce royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente et il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Le royaume que Jésus présente est différent. Je vous propose trois points. Le royaume qui était attendu par le peuple. Qu'est-ce qu'ils attendaient particulièrement? Dans un deuxième temps, on verra quelle est la description du royaume que Jésus fait, ce royaume qu'il inaugure par sa venue. Et enfin, le royaume qui est encore à venir. Pour le royaume attendu, pour les gens de l'époque, la royauté était fortement associée au Dieu, à Dieu. C'est Dieu lui-même qui va désigner le roi par l'intermédiaire des prophètes. On peut lire dans les psaumes, c'est un texte qu'on fait souvent référence dans les cultes, hein, les psaumes. David, c'est Dieu qui l'a choisi et il dit par exemple au psaume 2, Dieu qui dit « C'est moi qui ai investi mon roi sur la ville de Sion. » Et dans ce même psaume, on voit que c'est Dieu qui vient délivrer son peuple de l'oppression avec force et puissance. Un autre psaume de David, psaume 18. David prie pour remercier Dieu après une victoire. Et il dit que c'est l'Éternel qui tonne dans le ciel, la voix du Dieu très haut résonne parmi la grêle et dans le feu. Et soudain, il envoie ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lance des éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, Éternel, et au souffle de ta colère, le fond des océans paraît. Les fondements de la terre sont mis à nu. L'intervention de Dieu en Égypte est aussi de manière assez spectaculaire. C'est manifeste. On ne peut pas dire que ce n'est pas Dieu. L'intervention, souvent dans l'Ancien Testament de Dieu, est assez spectaculaire. Le peuple attendait cette délivrance. Attendait la délivrance par Dieu. C'est ce que les prophètes ont annoncé, que Dieu jugerait les nations alentour et que Dieu conduirait son peuple, que Dieu les délivrerait face à ses méchants, face à l'oppression de ses méchants. L'évangéliste Matthieu, un de ses points, un de ses objectifs dans son évangile, est de dire que Jésus est l'accomplissement de ses prophéties, et de dire que c'est Jésus qui est venu incarner ce royaume présenté, proposé, plus que proposé en tout cas, ou que Matthieu veut montrer que Jésus est l'accomplissement des prophéties. Jésus, par son incarnation, inaugure la venue de ce nouveau royaume. Mais, il y a les difficultés. Les modalités que Jésus nous propose dans ce texte sont différentes de ce que pourrait attendre, de ce qu'on pourrait attendre. Il propose un royaume qui vient s'établir discrètement, un royaume qui ne s'impose pas aux personnes. Royaume attendu. Il y en aura. Ouais. Bon. Jésus inaugure ce nouveau royaume, et quand on lit ces trois paraboles, c'est dans ce moment, et même l'explication On voit qu'il est discret, il arrive simplement, qu'il est modeste dans ses départs, et pourtant qu'il se développe de manière impressionnante, et qu'il se développe malgré des complications, mais qu'à la fin, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Le développement du royaume de Dieu est discret. On verra qu'après il nous échappe et qu'il prend du temps. Mais premièrement, le développement du royaume de Dieu est discret. Verset 32, parabole numéro 2. Ça vous aide à réfléchir, c'est quelle la première? Et c'est parce que si je donne le nom de la parabole, les aigles vont savoir comment répondre. Verset 32. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Quand on lit ce verset, on peut avoir l'impression que, bon, elle est peut-être, et puis parfois, elle peut se développer et devenir assez grande. Mais en fait, la construction de phrase est un peu plus riche que ça. Si vous regardez dans une Bible grecque-français, où ça vous dit mot à mot ce qui est marqué en grec, ça s'appelle un interlinéaire, ça vous aide à vous dites, ouais, je ne sais pas lire le grec, je ne peux pas lire un truc comme ça. Mais du coup, ça peut vous aider à regarder un peu mieux. Ce que le texte dit, c'est qu'il y a une question d'une part et d'autre part. D'une part, c'est la plus petite des graines, et d'autre part, elle va grandir de manière gigantesque et majestueuse et très puissante pour abriter des oiseaux. Il y a vraiment ces deux notions. C'est les mêmes éléments. D'un côté, elle est petite, mais une fois plantée, elle devient grande. Il n'y a pas d'option dans le texte. Ce n'est pas potentiellement, elle va grandir, potentiellement, ça va marcher. Non, c'est d'une part et d'autre part. Jésus, en prenant cet exemple, affirme que oui, les débuts peuvent ne pas paraître prometteurs. On a une toute petite graine, c'est la plus petite des graines, mais elle grandit. Et il affirme qu'elle grandit. Elle grandit jusqu'à devenir un arbre, si bien qu'elle va abriter les oiseaux. Dans la parabole numéro 3, au verset 33, on a une comparaison avec du levain. Et on voit qu'il suffit de très peu de levain pour faire lever toute la pâte. Alors déjà, je ne sais pas, vous êtes peut-être mis à faire du pain chez vous, hein, mais quand même 20 kilos de farine, il y a beaucoup de monde à la maison. Hein. On vient tous là, c'est après l'église. Bref, ça c'était juste pour vous réveiller. On voit qu'il faut très peu de levain pour faire lever toute la pâte. On voit que la pâte, le levain, pénètre entièrement dans la farine. Et on voit qu'elle rentre, on ne sait plus faire la distinction. On ne peut pas dire à la fin, ah tiens, ça c'est du levain, ça c'est de la farine. On voit qu'elle imprègne tout. On voit qu'elle pénètre tout. Et un commentateur dit, hein, de la même manière qu'une mesure de levain fait lever toute la pâte, le règne de Dieu pénètre toutes les fibres de la vie d'une personne pour la faire grandir. Une petite mesure est pourtant de grandes répercussions. On ne sait pas comment Dieu fait. C'est ça qui nous rappelle Jésus. On ne sait pas comment il fait lever la pâte. En tout cas, on sait qu'il le fait, qu'il fait grandir, qu'il fait se développer, qu'il fait la croissance, parce que c'est l'idée de la croissance, hein, avec le levain. Le royaume de Dieu nous échappe, son développement nous échappe, c'est le point B. Et je voudrais juste peut-être vous faire prendre conscience de quelques points. Quand des choses comme ça, le développement du royaume de Dieu nous échappe, ça nous appelle à être modestes aussi, à nos attentes. Des fois, on pourrait calquer des envies de développement. Il faut que ça marche comme ça pour que ça se développe. Mais ça ne marche pas toujours comme on le voudrait. Il faut que si on veut faire des disciples, il faut passer par le point A, B, C, obligé. Des disciples qui font des disciples, c'est un peu le slogan d'ici de l'Église, si vous êtes nouveau. Des fois, on calque, on pense qu'il y a des bonnes choses à faire. Et c'est vrai, mais cette parabole nous rappelle que des méthodes, il y a une diversité de méthodes, une diversité de moyens, et que c'est Dieu au final qui fait grandir. Donc ça nous appelle à rester humbles. Ça nous oblige à nous en remettre à Dieu. C'est lui qui fait grandir. C'est pas nous. C'est lui qui fait pousser la plante. Nous, on a beau tirer sur sa tête. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, le bout de la plante, là, au-dessus. C'est pas ça qui va la faire grandir. C'est Dieu qui prend, qui pousse, qui fait élever. Ça nous appelle à l'humilité. Troisième point. On voit que le développement du royaume de Dieu prend du temps. On les lit rapidement, ces paraboles. Et c'est comme, globalement, dans les évangiles ou la Bible. On a l'impression que ça se passe très rapidement. Mais des fois, il y a du temps qui se passe. Et là, on a l'impression que le développement se fait rapidement. Mais pas du tout. On a l'impression que c'est Jacques et l'haricot magique. Vous voyez, hein, vous plantez la graine, pouf, un gros haricot. Et ça se fait instantanément. Non. On voit que dans ces paraboles, le développement prend du temps. On voit qu'il y a une croissance progressive. Il y a différentes étapes. Tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Dieu aurait très bien pu le faire en un claquement de doigts. Ce n'est pas qu'il est incompétent. Hein. C'est que ce n'est pas comme ça qu'il a choisi. C'est ça, pas sa méthode. Il a choisi de faire fonctionner avec le temps. Dieu, dans ses paraboles, nous montre qu'il ne s'impose pas. Il laisse les choses aussi se développer. Il laisse le levain pénétrer progressivement la farine. Il laisse la plante progressivement pousser. Dieu ne s'impose pas. Il nous laisse le temps d'avancer. Il laisse l'esprit nous convaincre. Il laisse l'esprit nous convaincre. Convaincre tous les recoins de nos vies. Des fois, on n'aime pas trop qu'il aille dans ce coin-là. Parce que ce n'est pas très propre. Des fois, quand vous faites le ménage pour inviter des gens, vous poussez tout dans les coins. Enfin, pas chez moi, bien sûr. D'ailleurs, je ne vous ai pas invité pour manger après le culte, d'ailleurs. Voilà. Dieu veut convaincre tous les coins de nos vies. Il ne veut pas le faire contre notre volonté. Il veut travailler avec nous. Et c'est lui, en même temps, qui nous donne la volonté d'avancer. Quand je dis que Dieu, les choses, la croissance prend du temps, encore une fois, ça nous appelle à être patients. Patients à l'égard de nous-mêmes, des autres, et des fois, dans les autres, du jugement des autres. On aimerait être directement la graine de moutarde qui est directement un arbre. On aimerait être prêt tout de suite à accueillir tous les oiseaux. On aimerait tout de suite ne plus pécher du tout. On aimerait tout de suite être parfait, parfaitement aimant. On aimerait tout de suite prendre du plaisir à discuter avec son prochain. On aimerait tout de suite prier, prendre du plaisir à prier et de lire la Bible tous les jours. On aimerait tout de suite. Mais Jésus nous rappelle que ça prend du temps, que le développement du royaume de Dieu dans nos cœurs prend du temps. Que cette graine qui a été semée, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, son développement prend du temps. Et Dieu le fait avec nous et pas contre nous. Jésus, dans cette attente, dans ce temps, nous appelle aussi à lâcher prise et le laisser agir. Oui, je ne suis pas parfait. Oui, ou non plutôt, je ne suis pas parfait. Dieu nous appelle à le laisser agir sans culpabiliser. Non, tu n'es pas parfait. Non, tu n'es pas parfaite. Mais Dieu t'aime en connaissance de cause. C'est lui qui te fait grandir. C'est lui qui te donne le vouloir et le faire. Dieu nous offre cet immense cadeau, cette grâce de nous pardonner nos fautes, et comme on l'a revu, à travers le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Dans quel but? Vous vous souvenez à la fin de notre passage? Afin de nous faire resplendir à ses côtés. Matthieu le rappelle dans le sermon sur la montagne. Heureux êtes-vous, car le royaume des cieux vous appartient. Royaume des cieux, royaume de Dieu, vous appartient. Oui, le développement du royaume prend du temps. Mais il ne faut pas culpabiliser. Il faut laisser Dieu transformer tous les recoins de nos vies. Bien sûr, on va devenir, à un moment donné, cet arbre. Ça ne veut pas dire, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit, qu'il ne faut pas travailler, coopérer avec Dieu dans cette croissance. Dieu, demandez à Dieu de nous aider à rentrer dans ses plans et d'avancer avec lui. Et c'est tout un cheminement, une imbrication qui est un peu compliquée des fois à gérer. Mais des fois, on aimerait faire à la place de Dieu. Et d'ailleurs, je pense, je nous soupçonne par moments de vouloir réussir à être meilleur juste dans le but d'accomplir quelques actes. Juste dans le but de dire « Ah, j'ai quand même un peu mérité mon salut. » Inconsciemment, je nous soupçonne. C'est juste une idée. Vous faites ce que vous voulez. Quatrième point qui était caché. Le royaume de Dieu n'avance pas, se développe pas sans difficulté. Vous avez vu que ça prend quand même une place importante aussi dans nos paraboles, cette idée de complication, de difficulté. Et on a l'idée d'une mauvaise herbe. Et cette mauvaise herbe nous rappelle que c'est difficulté. Alors, dans la version que j'ai choisie, il est traduit par mauvaise herbe. Dans d'autres versions, vous verrez, il parlait d'ivraie. L'ivraie, la graine de l'ivraie. Et si on regarde, en fait, un peu mieux une photo, on voit que c'est un peu difficile de comparer le blé, de différencier le blé livré. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai essayé de prendre du temps et je ne vois pas de différence fondamentale. Et en tout cas, la différence se voit juste à partir du moment où on voit les épis. Jusque-là, on ne voit pas la différence. La parabole numéro 1 nous rappelle qu'un ennemi a planté une semence presque pareille, une semence de contrefaçon. Presque pareille. Elle ne produit pas du bon fruit. D'ailleurs, à la fin, on la jette et puis on la brûle. Elle ne remplit pas son taf, quoi. Elle ne fait pas son job. Et aujourd'hui, je pense que Jésus ferait la comparaison en employant deux marques. Deux marques qui produisent un même produit électroménager, par exemple. Et quand on l'allume, on voit qu'il y en a un qui remplit le taf et pas l'autre, qui remplit sa fonction et pas l'autre. C'est ce que Jésus nous dirait. Tant qu'on n'a pas allumé, on ne sait pas trop lequel va bien fonctionner. Mais une fois qu'on a regardé un peu mieux, on voit lequel est un peu défaillant. L'ennemi a semé une plante, une semence de contrefaçon. Et c'est là aussi, ça nous rappelle, en creux, toute la ruse de l'ennemi, de singer les choses de Dieu, d'essayer d'imiter les choses de Dieu. Pour brouiller, son but, le diable, c'est brouiller notre vision de Dieu. C'est de nous dire, mais où il est en fait? Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, si le mal existe, c'est forcément que Dieu n'existe pas, parce qu'il y a du mal. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et c'est ce que pensaient les gens de l'époque. C'est bizarre, ça ne peut pas se passer comme ça. Le royaume ne peut pas arriver comme ça. Mais Jésus dit clairement que c'est normal. Je laisse le blé grandir, progresser avec la mauvaise herbe. Il laisse les deux grandir ensemble. Et à la fin, je moissonnerai et je ferai un tri. Jésus rappelle que ça ne veut pas dire que son royaume n'est pas là. Il rappelle juste que le royaume n'arrive pas comme eux le pensaient. Les techniques du diable qui nous brouillent notre vue sur Dieu nous empêchent de regarder à Dieu. Mais Dieu nous rappelle qu'il est là. Et dans cette idée de moisson, il y a quelque chose aussi d'intéressant qui nous rappelle. C'est lui, à la fin, qui fait le tri. Ce n'est pas à nous de faire le tri, ce n'est pas à nous de juger, ce n'est pas à nous d'arracher. C'est les anges, à la fin de l'histoire, qui arrachent, qui font le tri. Dieu rappelle, nous rappelle la croissance, se concentrer sur cette croissance qui peut prendre du temps, mais qu'à la fin sera grande. Elle va grandir, elle va marcher. Les débuts ne sont pas forcément prometteurs, on a plein l'impression que ça va bien marcher, ce n'est pas spectaculaire, mais ça marche. Ces paraboles nous rappellent, nous invitent à attendre le royaume à venir. Le royaume à venir. Il y a une fin qui révélera tout ça. Jésus affirme qu'à la fin de la moisson, le tri sera fait. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et Jésus souhaite encourager les disciples, souhaite les aider à prendre les bonnes décisions, souhaite nous aider à prendre les bonnes décisions. Le texte évoque la fin du monde. Mais il ne faut pas se tromper. Ça ne veut pas dire la fin de tout, la fin de... Après que c'est du néant. C'est la fin de cette étape, la fin de cette ère. Une nouvelle ère derrière commence. Un nouvel âge, une nouvelle étape, un nouveau monde où il n'y aura que le blé et Dieu. Jésus, en rappelant cette fin, nous appelle, nous rappelle, nous invite à nous positionner. On voit que le royaume de Dieu arrive doucement, dans le but de travailler avec nous. Il ne veut pas s'imposer à nous. Et c'est toute l'idée de la révélation biblique d'ailleurs. Dieu se révèle progressivement à travers son peuple. Et Dieu veut un assentiment, veut que le peuple souhaite avec lui de manière pas brutale, il le fait progressivement. Le peuple attendait un royaume qui claque, où Dieu délivrerait de l'oppression. Et Jésus vient leur annoncer une autre forme de royaume. C'est bouleversant. C'est peut-être bouleversant aussi pour nous. Jésus nous appelle à une compréhension plus profonde. Et il nous invite à examiner les implications de ses paroles. Que celui qui a des oreilles qui entendent. Où on se situe? Où vous situez-vous? Dans quel groupe êtes-vous? Pour Jésus, le fait d'accueillir ou non le royaume de Dieu est un enjeu existentiel. Vous avez bien vu les avertissements qu'il donne à la fin. Il y a un enjeu existentiel. Mais quand même, il nous laisse notre choix, notre volonté. Il nous rappelle que, une fois la graine est semée, comme on l'a vu la semaine dernière, et qui prend, alors elle arrivera à maturité. Il va faire en sorte qu'elle arrive à maturité. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est puissant. Aujourd'hui, on aime ce qui claque, le spectaculaire, les phrases, les punchlines, les slogans, et surtout dans ces moments un peu d'élection. On aime, dans nos églises, des témoignages des fois qui claquent. Ouais, avant, j'étais pire que tous les humains de la terre, et maintenant, je suis touché par Dieu. On aime ce qui est un peu spectaculaire, même dans les témoignages de conversion. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis juste que Dieu travaille des fois dans le secret, discrètement, dans ce côté discret. La conversion est toujours un miracle. Ce n'est pas de notre propre force qu'on peut dire oui à Dieu. Mais Dieu, à travers ses paraboles, nous rappelle que nos catégories, nos pensées ne sont pas les siennes. Que Dieu travaille les cœurs dans la durée. Nous rappelle, nous invite à regarder à lui. Dieu nous appelle à ne pas culpabiliser du fait que la croissance prend du temps. Dieu nous rappelle aussi que le livret, la mauvaise herbe, croit en même temps que le blé, que ce n'est pas à nous de faire le tri. Qu'il est patient et qu'il souhaite qu'aucune personne ne périsse. Le royaume de Dieu n'a pas encore de territoire visible. On l'a vu tout à l'heure, c'est une question de temps. On l'a lu dans l'Apocalypse. Mais déjà, Dieu a ses ambassades, ses églises, ses chrétiens, qui montrent comment le royaume de Dieu progresse. Oui, l'évangéliste Matthieu nous rappelle que nous sommes déjà sauvés, mais pas encore pleinement dans sa gloire. Oui, le royaume de Dieu se manifeste, nous grandissons, mais la moisson n'est pas encore là. Cette parabole, ces paraboles, nous appellent aussi à être patients, patients dans la durée. Et ces rappels de la fin des temps nous invitent à rester encore plus patients. L'attente de la division finale qui fournit l'enracinement de l'invitation et nous invite à la patience. Mais ce n'est pas tout. Le royaume de Dieu est discret, mais il est aussi semblable à un trésor caché. Et ça, c'est la semaine prochaine.